Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins plus d'un million et demi de morts dans le monde depuis son apparition. Plus de 76 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie, dont plus de 18 millions aux États-Unis. L'épidémie de Covid-19 a eu de nombreuses conséquences et a bouleversé nos vies. Elle a bouleversé également celle des soignants, médecins, infirmiers, infirmières, tout le personnel soignant. Comment les soignants ont vécu cette crise sanitaire? Comment ont-ils travaillé? Quels enseignements ont-ils tiré? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous rejoignons sur le plateau d'Africa Radio Amel Daklaoui. Elle est infirmière à l'hôpital Bichat, Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous accompagne aussi Jean-Oscar Macasso. Il est ethnopsychologue et directeur de l'association Maison Sundiata Keita qui vient en aide aux migrants. Et au téléphone d'Africa Radio, en direct de Limoges, Anne Fauché. Elle est infirmière. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Anne Fauché. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, infirmière dans un hôpital de la ville de Limoges. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire au moment de la première vague de Covid-19?
Nous, au moment de le confinement, au niveau de la première vague, on l'a vécu comme tout le monde, je pense, de façon assez brutale, parce que déjà sur le moment, on est un petit peu dans l'inconnu, on nous annonce des choses dramatiques avec des retours de situation catastrophiques dans les hôpitaux de l'Est et à Paris. Donc c'est vrai que nous, dans un premier temps, c'est forcément la peur, quoi. Et puis du coup après, les mesures ont été prises surtout pour protéger les personnes âgées à l'hôpital, dans les services de court, de moyen, de long séjour. Et donc ça a été des décisions qui ont été très rapides, qui ont généré beaucoup d'angoisse chez les patients, notamment chez les personnes âgées, et puis aussi des réactions assez vives de la part des familles quand on les a coupées aussi de leurs parents. Et donc nous, j'ai envie de dire que le confinement, on l'a vécu comme tout le monde. Oui, ça a été assez brutal, mais heureusement, nous, on a été épargnés, je dirais, par le Covid à la première vague, en fait. Nous, on a vécu plutôt dans l'attente, dans l'angoisse qu'un cas se déclare, même si on était prêts, et qu'il fasse un effet boule de neige. On n'a pas pris le virus de plein fouet comme mes collègues dans l'Est. Donc moi, je peux dire que pour le premier confinement, la crise sanitaire a été plutôt bien gérée chez nous, cette première vague. On a eu beaucoup de suspicions qui sont avérées négatives, et puis ce qui nous a permis aussi de pouvoir prendre des patients de l'Est pour désengorger les hôpitaux, mais comme on savait qu'ils étaient Covid, donc la prise en charge a été optimale dès le départ pour limiter la contagion.
Alors justement, vous venez de le dire, Anne Fauché, la ville de Limoges et sa région ont plutôt été épargnées lors de la première vague, mais il y a eu plus de cas dans votre ville ces derniers mois. Alors, lors du deuxième confinement, étiez-vous peut-être plus préparé ainsi que vos collègues à cette deuxième vague?
Alors moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas pour mes collègues, mais je pense que l'expérience nous montre qu'en fait, on n'est jamais vraiment préparé, en fait. On a eu la chance de ne pas être vraiment touché au premier confinement, ce qui fait qu'on a eu la chance de bénéficier de formations à l'intérieur de l'hôpital pour nous apprendre comment réagir, comment mettre les choses en place de façon très, très rapide, comment armer une chambre quand on avait un patient Covid pour l'isoler au plus vite. Mais nous, la deuxième vague, j'ai envie de dire, on l'a prise de plein fouet aussi, parce que on a beau être préparé, la contamination, elle arrive d'un coup. Et puis là, il y a vraiment un effet boule de neige, en fait, quoi. Et moi, je dirais heureusement qu'on a eu ces formations lors du premier confinement sur les procédures, les conduites à tenir. Et donc, ça nous a aidé quand même à être efficace, quoi. On a isolé les patients positifs, on a procédé à des tests sur l'ensemble des patients des services. Donc, on a pu contenir, en fait, la contagion.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans l'exercice de votre travail durant les temps forts de la crise?
Je pense que, moi je dirais que c'est un peu comme tous les soignants, ce qui nous a manqué, c'est de l'équipement. Même au premier confinement, bien sûr, il a fallu compter les masques qu'on utilisait pour réduire au maximum le gaspillage, en fait. Parce que chaque masque, chaque blouse compte. et que du coup ça entraînait certainement, enfin obligatoirement, une prise en soins différente, parce que bien ça a limité les flux d'entrée de sortie dans les chambres, et donc bien un petit peu moins de présence auprès de patients qui étaient quand même dans l'angoisse, quoi. Donc c'est surtout du matériel et de l'équipement.
Jean-Oscar Macasso, vous êtes ethnopsychologue, hein. On le rappelle. Alors vous, comment avez-vous vécu cette première crise, et comment avez-vous aidé vos patients? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de vos patients qui étaient angoissés et qui sont venus vous voir.
Oui, effectivement, la première crise de Covid, pour moi personnellement, ça a été un peu difficile parce que tout le monde était confiné. Alors, si bien que avec mon centre, je n'ai pas pu ouvrir ce centre pendant trois semaines. Hein. Donc voilà, c'était très, très difficile. Mais aussi, alors comme nous n'étions pas préparés pour la prise en charge psychologique à partir de ça, donc il fallait suivre aussi l'évolution des informations que donnaient tous les médias. Et donc tout cela, ça a permis petit à petit de prendre un peu confiance, oui. Et aussi de s'organiser et de voir comment intervenir auprès des patients, bien oui. sûr, qui étaient déjà suivis, qui oui. étaient sur le point de venir au centre. Donc j'ai mis en place, et ça veut dire des suivis visio, et qui m'ont permis vraiment d'intervenir, et aussi parce que je m'ai déplacé aussi pour aller dans des provinces aussi pour faire des consultations. Donc tout cela m'a permis de tenir compte vraiment de la difficulté, aussi agir selon mes moyens, de techniques, d'être au plus près, ces patients-là qui souffraient, et d'angoisse, de stress, et effectivement, donc c'était très, très difficile pour tout le monde.
Alors, est-ce que cela a été difficile pour vous, en plus, parce que, en fait, est-ce que vous avez anticipé, est-ce que vous avez été surpris par cette crise sanitaire et les annonces du gouvernement, c'est-à-dire le premier confinement?
Oui, j'ai été surpris, et en même temps, moi, je peux vous dire quand même que moi-même personnellement, en tant que soignant dans le sens psychologique, hein, cet accompagnement, et je cherchais aussi à comprendre tout ce qui s'est passé. Donc il y avait une méfiance, il y avait une peur déjà, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et en même temps, je peux reprendre un peu les termes du président, hein, qui disait que nous sommes face à la guerre. Alors ce virus qui était là, donc qui était l'inconnu et qui faisait peur. Et si bien qu'il fallait trouver des solutions. Donc pour moi, ça a été vraiment très difficile. Mais ce qui m'a sauvé en ce moment-là, comme je peux vous dire, et uniquement parce que, étant la technologie, ça de tout ce qui faisait partie du suivi et de visioconférence, c'est ça qui m'a permis vraiment de faire le lien avec les patients. Et j'étais très, 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 très sollicité parce qu'il y a certains patients qui décompensaient dans des services, et que les professionnels m'appelaient, et donc j'arrivais à mettre en place le suivi vraiment au quotidien.
Vous, très rapidement, vous avez senti de l'angoisse, de l'anxiété chez vos patients au moment de cette crise et des temps forts de cette première crise sanitaire?
Alors c'était la panique, quand j'ai dit comme ça, la panique, l'angoisse, le stress.
Qu'est-ce que vous disaient vos patients, par exemple, si vous avez des exemples?
Exactement, parce qu'il y a certains patients, bien sûr, qui me disaient qu'ils ne dormaient plus. Voilà, il y avait des troubles de sommeil, vraiment très, très importants, vous voyez. Et en même temps, il y avait des crises aussi, de violence. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre qu'il y avait certaines familles qui avaient des enfants avec aussi de la violence, vraiment de couple. Et donc, je me suis retrouvé un jour dans un service, UDA, où il y a une dame qui était vraiment en crise. Et si bien que les professionnels m'ont appelé en me disant, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce qu'on a essayé d'appeler les 115, et c'est difficile. Et c'est là où j'ai vraiment, je peux vous dire ça sincèrement, là, j'ai compris l'efficacité de notre prise en charge psychologique. Parce que je me suis dit, comment je peux aider une personne qui n'est pas en face de moi et pouvoir vraiment la contenir? Vous voyez? Et cette personne m'a remercié. Vraiment en me disant, mais je vous remercie parce que l'autre jour j'étais très, très mal, mais vous m'avez aidé à travers vraiment votre écoute et votre disponibilité. Donc je pense que tout cela pour moi personnellement, en tant que aussi accompagnant vraiment psychologique, ça m'a aidé à me réconforter dans cette période qui était la période vraiment d'angoisse pour tout le monde.
Amel Laclaoui, vous êtes infirmière à l'hôpital Bichat à Paris, l'hôpital Bichat qui a été rapidement été en première ligne de cette crise sanitaire. Les premiers patients se trouvaient dans cet établissement. Comment avez-vous vécu cette période ?
Alors moi, je dois préciser que la première crise, je ne l'ai pas vécue directement, puisque je l'ai vécue plutôt à distance. J'étais plutôt confinée puisque je terminais un cursus d'études en psychologie. Donc moi, je l'ai vécu à travers les médias. Je l'ai aussi beaucoup vécu par des retours de collègues qui m'appelaient pour partager un petit peu leur vécu professionnel. Et puis bon, avec cette spécificité que j'avais d'étudiante en psychologie, et donc ils avaient besoin, c'était surtout l'après-coup, après leur travail quotidien, ils avaient besoin de parler et de partager ce qui n'était pas forcément possible dans le moment précis, puisque il y avait des choses à faire directement, la prise en charge des patients, et on était dans une découverte d'un virus qu'on ne connaissait pas, et on avait des retours, ce qui fait que moi je me suis quand même beaucoup renseignée aussi par rapport à des retours que j'ai pu avoir, à des recherches personnelles, et les collègues que j'ai pu avoir au téléphone m'ont exprimé, alors pour certains c'était pas de l'angoisse, voilà. Pour la plupart d'entre elles, j'étais surprise, ce n'était pas de l'angoisse, c'était de la curiosité, de l'étonnement, puisque beaucoup d'informations arrivaient un petit peu de partout. Il y avait encore des situations qui étaient floues, on ne connaissait pas trop comment détecter, chez qui. Alors, il y a eu pas mal d'hypothèses. Après, il y a eu toutes ces personnes avec des caractéristiques de comorbidité. Moi, voilà, donc c'était surtout beaucoup, beaucoup le besoin de discuter. Donc j'ai beaucoup été sollicitée par mes collègues.
Oui, et vos collègues de l'hôpital Bichat, est-ce que lors de vos échanges, ils vous disaient « oui, nous recevons de plus en plus de patients
oui.
À l'hôpital à Bichat
oui, ?»
Et ça
oui,
avait
oui.
peut-être. Est-ce que déjà certains vous disaient « si ça continue comme ça, on va avoir du mal à gérer la situation ?»
Alors la gestion, elle a été, je pense, compliquée un petit peu pour tout le monde au départ à mettre en place, puisque c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il fallait tout mettre en place, il fallait tout mettre, une gestion, qu'est-ce qu'il fallait comme matériel, tout ça. Moi, les retours que j'ai eus, c'était pas une gestion dans le manque, mais plutôt dans cet afflux. Il y a eu un important afflux pendant un moment donné, et peut-être qu'il y a eu un ressenti à un moment donné de dépassement, on ne savait plus trop comment, peut-être au niveau des effectifs. C'est vrai qu'il a fallu organiser aussi des services où on hospitalisait les patients uniquement Covid et puis isoler les autres qui ne l'étaient pas pour éviter la contagion. Il y a eu des collègues qui ont été plus dans un secteur que dans un autre. Mais sinon, en gros, c'est vrai que l'hôpital Bichat a beaucoup été médiatisé aussi. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Beaucoup de personnes sont intervenues dans les médias. Et donc moi, effectivement, l'hôpital Bichat a été un des hôpitaux les plus recevants au niveau des urgences et tout.
Les premiers Covid, il me semble.
Voilà, les deux premiers Covid, ce couple de grand-père chinois avec sa petite fille, effectivement. Bon voilà, la jeune fille a pu ressortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour son grand-père. Mais bon, après, par la suite, on a su qu'il y avait quand même des caractéristiques de comorbidité qui a fait que voilà.
Anne Fauché, est-ce que vous aussi, en tant qu'infirmière, très rapidement, il a fallu, vous avez eu ressenti ce besoin de parler à vos collègues et peut-être à d'autres personnes de votre vécu, de ce qui s'est passé?
On a beaucoup beaucoup parlé, beaucoup échangé entre nous, parce que forcément, bon, on était inquiète pour les patients, mais on était aussi inquiète pour nos proches, en fait, parce que c'est vrai que nous, on avait un petit peu le côté où on se sentait peut-être un peu aussi responsable de ramener le virus chez nous. Donc, il a fallu, oui, on s'est beaucoup parlé entre collègues. On a eu aussi des cellules psychologiques qui étaient ouvertes pour qu'on puisse parler avec des professionnels. Mais je pense que oui, les échanges qu'on a eus entre professionnels, ça nous a permis parfois de désamorcer un petit peu la tension, en fait.
Est-ce que par exemple dans la ville de Limoges, qui rappelons-le a été moins touchée au départ par la crise, est-ce que vous avez senti chez certains patients peut-être une sous-estimation de la maladie?
Alors, chez...
Ou certains qui ne portaient pas de masque ou qui ne respectaient pas les gestes barrières.
Alors, ça a été très compliqué, je vois, pour nous, en tout cas, au premier confinement, de faire respecter, en tout cas, à un moment donné, enfin, pour ce premier confinement, en tout cas, bon, il n'y avait pas de visite, hein, les visites étaient interdites. Donc là, c'était un petit peu compliqué à gérer, surtout au niveau du téléphone, parce que comme les familles n'étaient pas autorisées donc à venir voir les patients, du coup, elles téléphonaient beaucoup. Ce qui était tout à fait normal, hein, parce que bah, c'est sûr que c'est une maladie qu'on ne connaît pas, qui génère beaucoup d'angoisse et qu'on est inquiet pour les siens. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et du coup, ça a été aussi une autre variante à prendre en charge pour nous, au niveau de la charge de travail, en fait, où on s'est retrouvé en fait à être aussi un soutien psychologique pour les familles. Donc ça a été un petit peu, ouais, ça a été un petit peu compliqué à faire respecter, dans le sens où il y avait quand même des gens qui voulaient venir voir leurs proches parce qu'ils étaient inquiets. Donc on a été obligé de leur dire de partir, quoi. Donc ça a été des expériences un petit peu violentes quand même.
Jean-Oscar Macasso, alors comment avez-vous réagi à l'annonce du reconfinement, moins strict, mais reconfinement quand même? Étiez-vous mieux préparé?
Bon, parce que moi, j'ai essayé de suivre un peu les informations qui venaient pour essayer de comprendre comment me reprendre un peu pour le deuxième confinement. Et c'est vrai que ça m'a soulagé quand même, dû l'organisation et puis la distanciation aussi, et le respect vraiment des uns des autres. Alors, c'est ça qui m'a permis quand même d'ouvrir, parce que je me disais comment je vais faire pour la continuité du centre aussi, pour la prise en charge des patients. Et donc, j'ai mis en place quand même cette continuité, cette ouverture de recevoir les patients et avec les professionnels, bien entendu, en respectant la distanciation. Donc, je ne me suis pas senti tellement enfermé comme au premier confinement. Donc, il y avait une souplesse qui me permet aujourd'hui de suivre ces familles et ces patients qui viennent. Et en même temps, deuxièmement, j'ai aussi trouvé cet allègement quand même de nous donner cette liberté, ça veut dire de se déplacer aussi, parce que j'interviens dans des banlieues aussi, dans d'autres institutions, permettant d'accompagner les jeunes aussi des familles et dans ce cadre-là. Donc cette souplesse-là aujourd'hui, ça nous aide vraiment à continuer à faire la prise en charge des familles aussi, à travailler avec des institutions qui sont en charge avec ces familles-là.
Quelle expérience avez-vous tirée de cette crise sanitaire? Qu'est-ce que vous avez mieux fait là lors de cette deuxième vague que vous avez peut-être loupé au moment de la première vague?
Vous savez, notre métier en tant que, bien sûr, l'aide psychologique, à tout sujet ou à toute personne, et c'est d'être vraiment dans une relation de face à face, bien sûr, hein, et qui permet bien sûr de partager ce cadre-là visuel pour être dans un cadre bien classique.
Est-ce que vous avez senti que les angoisses n'ont pas baissé? Parce que c'est vrai que le virus, à un moment, est retombé, mais est-ce que les angoisses, l'anxiété, par contre, sont restées de la même intensité que lors de la première vague?
Oui, moi je dirais qu'il y auront toujours des séquelles, quelque part. Vous savez, quel qu'en soit vraiment aujourd'hui, la diminution, plus ou moins, un peu du virus, mais il y a des patients qui sont tout à fait infectés. Moi, je vais vous dire, parce que j'ai rencontré surtout une communauté qu'on n'en parle pas. C'est surtout la communauté chinoise. J'ai eu récemment, ça ne fait même pas deux jours, où il y avait une famille qui me disait que nous, on a peur de laisser nos enfants sortir. Bon, vous voyez qu'il y a encore la peur qui est là. Oui. Il y a la peur, mais encore plus, il y a autre chose. Peut-être que j'essaie un peu de découvrir encore pendant cette deuxième vague, cette prise en charge où les jeunes aujourd'hui, ils ont quelque chose de l'ordre comme ça, d'une forme un peu, d'un sentiment d'être ennuyé. C'est-à-dire l'ennui, en fait, qui fait plus ou moins le décrochage de certains étudiants, hein, et en même temps qui les expose aussi à toutes les consommations. vraiment, j'ai eu une consultation d'un moment où des jeunes me disent « je m'ennuie ». Alors, c'est quelque chose qui ressort, et c'est nouveau pour moi dans mes consultations. « Je m'ennuie ». Et tout cela, ça nous projette pour voir quand même qu'il y a d'autres formes, oui, d'un sentiment aussi, peut-être, de difficultés qui pourront venir plus tard.
Anne Fauché, quelles sont les expériences, vous, que vous tirez de cette crise sanitaire ?
Ben, les expériences, en fait, c'est qu'en fait, on n'est jamais totalement au point. Ce virus, il arrive par surprise et donc il faut tout le temps un petit peu se réinventer et s'adapter, en fait. Et toujours, effectivement, prendre en charge la détresse des patients parce qu'on pense toujours que ce virus s'attaque à telle ou telle catégorie de personnes, les personnes âgées, les personnes fragiles, mais du coup, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de tableau de comorbidité, qui sont touchées et qui s'aggravent, on ne sait pas pourquoi. Donc, pour nous, c'est de se dire qu'en fait, on ne sait pas, quoi, et qu'on est obligé de s'adapter, en fait, à chaque nouvelle vague.
Amel Daklaoui, vous êtes d'accord avec votre consoeur, hein, qui est également infirmière. Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir ?
Inquiète, ce serait un grand mot. Il y a encore beaucoup de questions qui sont présentes et on a
Vous avez le sentiment d'être mieux préparé aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que ma collègue disait qu'on n'est jamais vraiment préparé. Disons qu'on a peut-être la surprise moins grande. On s'attend toujours à une nouveauté qui va arriver, donc on sera peut-être un petit peu moins dans la stupeur. On va découvrir. On sait que ce virus aujourd'hui, il est particulier, il n'est pas encore complètement maîtrisable. Tous les jours, on en découvre. Là, on découvre qu'il y a une nouvelle mutation en place. Donc, qu'est-ce qui va... Certains m'ont rapporté qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore. Moi, je vis la deuxième vague aujourd'hui sur le terrain. Et on est bien préparé dans le sens où, déjà par rapport aux gestes barrières, par rapport à l'hygiène, c'est quelque chose que l'on sait faire et que l'on connaît bien. Par rapport, l'inquiétude que j'ai remarquée par rapport à certaines personnes, c'est que au premier confinement, tout le monde était confiné. Donc, on avait le sentiment de stopper la progression de l'épidémie. Tandis que dans la deuxième vague, il y a eu quand même des autorisations, des possibilités de s'exposer, et il y a quand même aussi cette crainte de transmettre, surtout chez des collègues qui ont des parents, des grands-parents. Là, c'est aussi problématique. Là, il y a une autre crainte qui vient. C'est pas du tout la même crainte qu'au premier confinement.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour parler de la manière dont vous avez vécu donc cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. On va se retrouver, Nadir Djenad, merci d'avoir préparé l'émission, j'avais oublié. On va se retrouver l'année prochaine pour le prochain rendez-vous santé. Merci à tous et à très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci beaucoup.